R22 tout le monde. Antenne cadiste.
Merci beaucoup, Racha. Je vais rechanger de langue. Ce que je trouve toujours compliqué. Déjà, dans quel cas-là, c'est compliqué. Merci beaucoup pour ces très, très belles vignettes que je vais essayer, dans un premier temps, de mettre en lien avec le texte que tu nous as proposé. Parce que là, tu fais cette proposition d'une écriture qui vient de ta propre mobilité, du fait d'être dans plusieurs endroits et de te rendre compte d'une malléabilité, d'une instabilité de ces moments où les œuvres et les artistes se déplacent d'un contexte à l'autre et peuvent résonner avec une urgence qui est une urgence souvent liée à un contexte très spécifique. Et ça m'a beaucoup touchée, notamment par rapport à ce que tu écris dans ce quatrième texte de Calcala, qui est plutôt une tentative... peut-être je vais parler de ça par la suite. Mais c'est... Oui, peut-être tu peux revenir sur ce travail d'observation que tu fais, d'accompagner ces déplacements et de voir comment justement un contexte spécifique permet une œuvre à un moment donné de déployer justement ou de résonner avec une situation qui est à la recherche d'une certaine perception.
Oui, peut-être ce qui m'intéresse ou ce qui reste ou ce qui me marque dans ces moments et la raison pour laquelle je les écris après, c'est ces malentendus qui sont quelque part et qui sont des failles et ces failles qui révèlent de nouvelles possibilités de signification. Le texte sur l'exposition en 2005 à Damas, en fait, était un peu plus long. Je l'ai raccourci pour ne pas vous infliger trop ce soir. Mais en fait, il y a tout un passage où il y avait des... Donc comme Youssef était interdit de séjour, enfin, il était interdit de retour en Syrie, et puis soudain, il y a eu cette permission. En fait, quand son avion a atterri à Damas, il y avait 300... C'était comme une manifestation politique. Il y avait 300 personnes à l'aéroport. L'aéroport n'avait jamais... de Damas n'avait jamais vu un événement pareil, une foule pareille. Et donc, pour le vernissage, la police était très alertée et les services de sécurité, de sécurité nationale étaient là. Et ils ne comprenaient pas pourquoi les gens... Il y avait ces hommes, et c'était des hommes dont les corps, on pouvait voir qu'ils avaient vécu des traumatismes, parce que beaucoup boitaient. Certains avaient perdu un œil. Presque tous étaient édentés. Ils étaient des hommes dont le physique témoignait d'une souffrance profonde, et qui se photographiaient avec ces dessins. Le dessin d'une chaussure défaite. Et donc, ces policiers ne comprenaient pas ce qui se passait et pourquoi il y a eu 3000 personnes à un vernissage. Ils ne comprenaient pas. Rien ne semblait, sauf bien sûr le bras, mais comme il était amputé. Donc, et c'est ce moment de malentendu que j'ai vraiment. Qui m'a marquée. C'est malentendu, en anglais on dit time slip, c'est comme un phénomène où les temporalités se choquent et ouvrent des champs de signification possibles. C'est à ce moment-là qu'on voit que le double langage s'effondre. Et notre rapport aux choses se transforme. Le texte dans Calcala se termine sans solution, sans résolution, à exprès. Quelque part, les résolutions ne m'intéressent pas. Mais je voulais juste mettre en danger ces musées dans ces pays et vraiment poser la question du patrimoine artistique de la modernité arabe, qui me passionne. Et...
Bon, sans vouloir spoiler sur le texte dans Kalkala, parce que Rachel l'a très bien annoncé comme un thriller, et elle a tout à fait raison. Du coup, un thriller, on ne raconte pas la fin. Et je ne vais pas raconter la fin. Mais ce qu'elle y fait, c'est quand même de pousser un certain discours humaniste sur le pouvoir de l'art à civiliser dans ses retranchements. Et le pousser vraiment à un endroit où on comprend bien, et ça, tu as dit double langage, mais aussi la violence qu'il déploie dans la mise en place par les institutions, et finalement ça, l'absence totale d'une réponse au moment où on met à l'épreuve ces politiques étatiques qui essayent de discipliner ces populations par le moyen de l'art. Et ce qui me paraissait extrêmement intéressant par rapport à ce qu'on essaie de discuter dans ce numéro de Kalkala, c'est le fait de se retrouver vraiment dans le champ de l'art. Alors, on est dans le musée en tant qu'institution qui devient un porteur de ce discours civilisationnel violent, et qui finalement se retrouve avec le dos contre le mur et dans une situation où il met plus de gens en danger, justement par le fait de brandir ce discours que d'arriver à proposer d'autres solutions.
Oui, parce que aussi les musées dans des pays où le politique est tellement contesté, précaire, ou qui sont des pays où la Chine construit tout, où on consomme que du chinois, mais en même temps le titanium est extrait par des Canadiens invisibles, où des dictateurs s'installent, repartent, voilà. Dans des situations comme telles, les musées sont parfois comme des ovnis, comme des espaces où des choses surréelles se passent. Par exemple, Lagos, une des plus belles salles du musée national de Lagos, et c'est la plus belle vengeance de l'histoire moderne du Nigeria. C'est une salle où on a rassemblé tous les portraits des dictateurs qui ont régné sur... c'est une salle très protégée. Ils sont coincés et chacun a tué l'autre. C'est, c'est une série de coups d'État. C'est une salle qui est fermée parce qu'ils ont peur que le public ne rentre dans cette salle. Il y a des portrait d'un même dictateur en plusieurs versions, impressionniste, cubiste, machin. Mais ces quatre murs où ils sont obligés de se regarder à éternité. C'est incroyable. Moi, j'attendais quelqu'un. Donc, j'avais fait le tour du musée et puis, je ne sais plus, je devais retrouver quelqu'un qui était très en retard. Et le garde a pris pitié sur moi. Il m'a dit, il reste cette salle, vous voulez la voir? Il a allumé le néon et j'étais dans un... Il m'a interdit de faire des photos pour ne pas... pour ne pas manquer de respect à ces images. Mais... Donc, comment on peut décrire cette salle dans ce... Quel discours muséographique. Ça, c'est l'étape numéro un avant la Cour internationale de justice. Mais elle existe. Déjà, ils sont punis. Ils se regardent. Obligés.
Je ne veux pas du tout monopoliser les questions. Vous en avez peut-être. Ou des remarques.
Par rapport aux vignettes, ce que je trouvais très beau, c'est la façon... De transformer une expérience artistique en une expérience personnelle et d'en donner le récit qui va en fait l'amplifier ou le rendre partageable au détriment d'une critique d'art plus classique. Et je me dis, quel est justement qu'est-ce que ne peut pas la critique d'art par rapport à une situation comme celle-ci ou par rapport à une proposition artistique comme celle-ci ou par rapport à une situation qui réunit des corps, des gens et des conflits
Fuck. vous connaissez la citation de Groucho Marx, je ne veux jamais être membre d'un club qui prend quelqu'un comme moi. Comme... Donc je ne sais pas si je crois que j'ai jamais eu le courage de dire que je suis critique d'art. C'était toujours des gens beaucoup plus intelligents ou plus qui ont la parole. Par contre, j'ai eu envie d'écrire ce que j'ai vécu, comment j'ai lu les choses, etc. Et donc, c'est pourquoi cette chose est restée, ce texte, qui n'est pas en soi, je crois, très intéressant. Mais ce qui reste avec moi, c'est qu'il devient, quand on regarde aujourd'hui les images de la Syrie, des artistes et des réalisateurs syriens, je peux construire une archéologie. Il devient un repère pour moi. Ce moment-là, en 2005, devient un moment où j'ai commencé à décoder, à comprendre. Et en revenant sur ce texte, en regardant aujourd'hui la hyper-prolifération d'images, elles ne viennent pas d'une actualité, mais elles viennent d'un lieu avec une histoire, une sédimentation, etc. Voilà. Merci pour...
C'est juste pour remercier pour ce moment. Très généreux de ta part et de la part de Kalkala aussi. Et de dire combien aujourd'hui c'est important qu'on parle comme ça ensemble, sans cynicisme, dans le monde de l'art dans lequel on est, la plupart de nous, qui, à cause de cette hyperprolifération, a construit des mondes qui sont complètement aliénés dans leurs paroles, dans leur positionnement. Je parle surtout, évidemment, de canons dans lesquels on s'inscrit depuis des siècles, canons de l'art contemporain qui est tellement une fabrication occidentale. Et combien tes vignettes témoignent de ce potentiel que je pense que vraiment beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains aujourd'hui recherchent, qui est une sorte d'authenticité, une sorte d'affect, quelque chose qui nous rappelle ce que c'est être humain, ce que c'est ressentir, etc. Et que dans la plupart des institutions d'art, on n'arrive pas à sentir ça. Et donc, du coup... Et pourquoi il y a tellement de raisons, parce que là, je parle général, on pourrait aller d'un lieu à l'autre. Et ce que je voulais dire, c'est que tu arrives à nous donner l'impression pourquoi, en fait, on fait ce qu'on fait et pourquoi c'est important de faire ça. Et je suis très, très touchée par ça. Et aussi parce que ça m'a fait rappeler... À deux choses, à deux moments très personnels de lecture récente. J'ai récemment lu pour la première fois dans ma vie le texte d'Ethel Adnan, Sit Mary Rose, qui est maintenant resté ancré en moi et je ne peux plus jamais relire un autre livre parce que c'est tellement... et c'est petit comme tes vignettes, c'est court, mais ça change pour moi, ça bouscule tout. Et la façon dont Svetlana Alexievitch, dans ses livres, aussi met ce récit et ce vécu, en fait, finalement, en premier plan. Donc, merci beaucoup.
Merci à toi. Tu connais, The Gap, ils ont une marque encore moins chère, qui s'appelle Old Navy. Oui. Si tu as envie de vengeance, sur YouTube, ils ont à un moment donné essayé de vendre un modèle de jeans. Ils ont fait une pub avec une commissaire dans une galerie d'art où il y avait des jeans. Mais on ne voit pas le jeans d'abord, on la voit elle. Elle est mince, très blonde, avec des lunettes exagérées. Et elle parle un charabia. Tu te dis, elle est devant... Marcel Duchamp, un truc, une, un grand. Et puis c'est un jean. Et puis c'est Old Navy. Voilà. Ça, c'est si tu as envie de t'éclater. Oui, il faut pas. Enfin, Etel Adnan est une. Oui, quelqu'un. Une magnifique référence. Et je n'oserai jamais. Mais... Comme je travaille aussi dans le monde du cinéma, je très souvent, je ne sais pas si vous savez, mais pour trouver de l'argent pour faire un film, les réalisateurs et les producteurs sont demandés à écrire des dossiers. Et dans ce dossier, il y a un synopsis court, un synopsis long, et ce qu'on appelle un traitement. Et ce traitement ou la note d'intention d'un réalisateur. En général, ce sont de très 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 beaux textes, alors que les réalisateurs généralement ne savent pas écrire. Et ces textes-là, ils doivent donner au lecteur une impression du film qui à la fois relate de l'histoire, mais qui donne des indications sur le cheminement visuel, dramaturgique, sonorifique, etc. Ce n'est pas de longs textes, mais très souvent, ce sont des textes magnifiques sur des films. Et finalement, le film qu'ils vont faire va être très différent. Mais c'est des textes magnifiques sur des films qui sont plus beaux que ce que les critiques de cinéma écrivent. Et j'ai toujours pensé, enfin, j'ai toujours rêvé de les collecter, de les publier comme des films possibles, des textes sur des films possibles qui peuvent toujours exister. Mais enfin, c'est parce que je vis avec des textes comme ça, je crois que aussi je. Et c'est des textes qui sont jetés à la poubelle, enfin, qui sont dans les archives du CNC, ou qui sont jetés aux poubelles. C'est dommage, parce qu'ils sont très souvent, hein ? Tu ne penses pas ?
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose ? Ouais. Oui, bon, ça, c'est une. C'est, là, je me suis dit, j'allais poser une autre question, mais là, je ne peux plus rien dire. Buvant du vin, alors. Merci beaucoup, Racha.